Je suis heureuse de vous retrouver ici et je remercie du fond du cœur Christophe Bidan d'être présent ici. Je vous dis deux mots sur ce monsieur que j'ai connu il y a bien longtemps, qui est devenu professeur d'université. Il travaille à l'université de Picardie. À présent, il s'occupe en particulier des études de théâtre. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, en particulier sur Maurice Blanchot, dernièrement j'ai vu sur Roland Barthes, mais qui a aussi beaucoup consacré de temps à travailler sur l'œuvre de Coltès, qui a publié un texte que je trouve très beau, mais qui est disparu un peu de l'édition, qui s'appelle Bernard-Marie Coltès, Généalogie, et puis qui a participé à des directions de revues sur Coltès, en particulier une revue qui s'appelle Coltès maintenant, enfin, c'est pas une revue, c'est un collectif, hein, si je ne me trompe, et qui devait ce soir intervenir au moment de la publication qui a été un petit peu retardée, et donc je n'ai lu que la quatrième de couverture qui m'intrigue beaucoup, qui s'appelle donc Le sens du monde, qui est consacré aussi à Coltès. J'ajouterai, au risque de gêner la personne, que nous avons ce soir aussi parmi nous le frère de Coltès que je remercie d'être présent. Voilà, je ne sais pas s'il voudra intervenir, mais il est au premier rang. Voilà, et je donne la parole à Christophe. Voilà.
Ça a l'air de marcher. Oui. Merci, merci Catherine. Ça va, c'est moi, le retour est assez prégnant dans les oreilles. Alors c'est vrai, je ne commence pas sans émotion, parce que comme Catherine l'a évoqué, nous nous sommes connus il y a un certain temps, et retrouver à cette occasion, ça me fait très plaisir d'intervenir à ses côtés, d'intervenir également en, excuse-moi, je vais le redire, François, en ta présence et d'une certaine manière en la présence de ton frère. L'approche que Catherine m'a présentée comme professeur d'université, l'approche que j'ai toujours eue de Coltès, l'approche que j'ai d'abord eue de Coltès est une approche de metteur en scène. J'ai dirigé pendant une petite dizaine d'années une compagnie de théâtre à la fin des années 90 et au début des années 2000, qui m'a donné l'occasion de travailler à la fois en atelier, parfois pour des parties de spectacle où j'avais fait une sorte de montage, hein, c'est encore à la mode, de textes d'auteurs différents. Et puis surtout, ça a été la dernière création de la compagnie, en fait, une mise en scène précisément de Dans la solitude des champs de coton. Donc c'est une pièce, je ne voudrais pas dire que je la connais par cœur, mais c'est vrai qu'à force de faire répéter les comédiens pendant des mois et des mois, on entend la langue et on finit par connaître les deux rôles quasiment aussi bien et sinon mieux que les comédiens eux-mêmes, puisqu'on connaît les deux partitions finalement, en ce qui concerne cette pièce à deux personnages. À deux instances de parole, je ne sais pas très bien comment il faudrait en parler, comment vous en parler, comment vous êtes amené à en parler de votre point de vue dissertatif essentiellement sur cette pièce. Alors je voudrais peut-être commencer par là, par cette approche plus sensible, peut-être plus personnelle. Après tout, si on est ici, si vous êtes ici, je crois aussi, en train de faire des études supérieures en littérature, c'est d'abord peut-être parce que vous exercez une sensibilité particulière à l'égard de la littérature. Ensuite, ça passe par des discours. L'approche première reste de l'ordre du sensible. Pour une part, de toute manière, le travail d'un metteur en scène, pour tout ce qui va concerner la dramaturgie du texte, de l'étude, la dramaturgie qui va fonder les options de mise en scène que l'on va pouvoir être amené à développer, à la fois d'abord dans son esprit, ensuite avec les comédiens et avec toute l'équipe artistique. Cette part sensible est prédominante. La question, par ailleurs, sous laquelle vous abordez la pièce et d'autres textes aussi qui sont à votre programme, et d'abord la question du théâtre en tant que tel, et je serai amené probablement, soit dans ma marche solitaire, soit avec les questions que pourrait être amené à me poser Catherine, à aborder également la question de la morale, puisque l'autre question, c'est littérature et morale, et que j'ai commis un jour cette phrase que Catherine a reprise dans un article récent, en parlant de « Dans la solitude des champs de coton » comme l'un des plus grands dialogues éthiques de notre temps. Alors, ce sera peut-être plutôt sous l'angle de l'éthique que sous l'angle de la morale que j'en parlerai. Cette distinction, d'ailleurs, probablement, me semble-t-il, en tout cas, assez fondamentale pour pouvoir aborder ces questions dans l'œuvre de Coltès. Donc, si vous voulez, de la mise en scène à la question éthique, essayez de suivre en gros ce parcours. Un parcours qui est peut-être aussi celui des deux livres que j'ai été amené à écrire sur Coltès. Donc le premier, Catherine l'a rappelé, en 2000, ça fait déjà 13 ans, Bernard-Marie Coltès, Généalogie, qui avait paru chez un éditeur qui n'existe plus aujourd'hui, qui était un très bel éditeur de poésie, de textes esthétiques, qui était Farago, qui s'est d'abord appelé Fourbi, puis Farago, en référence à Michel Léris, qui était dont la maison d'édition était sise à Tours, et qui a dû... C'est un peu malheureusement l'évolution de la littérature aussi dans ce pays et ailleurs, qui a dû fermer boutique à un moment donné, ne vendant pas suffisamment de ses ouvrages. Je signale quand même que ce livre qu'on peut trouver dans les bibliothèques et éventuellement dans les bacs de librairies d'occasion sera réédité prochainement sous forme numérique et éventuellement avec impression à la demande. Par la maison d'édition électronique dirigée par François Bon, auteur par ailleurs également d'un livre en hommage à Coltès qui s'appelle Pour Coltès. Donc ça s'appelle remu.net et il sera disponible en même temps que l'autre qui aurait dû paraître au mois de novembre et puis pour je ne sais quelle raison administrativo, financiero, éditorial, bref, c'est retardé au mois de février ou mars. Et un deuxième livre, donc, qui s'appelle Bernard-Marie Coltès, Le sens du monde, qui est écrit, finalisé vraiment depuis cet été, qui devait paraître en novembre, et c'est un peu pour ça qu'on avait programmé la rencontre début décembre pour que le livre soit éventuellement achetable, en tout cas que je puisse en parler avec un écho possible dans les bacs des libraires. Donc ce livre devrait paraître en février-mars et c'est une approche différente de l'œuvre de Coltès. Donc quand je vous disais que je vais vous parler depuis la mise en scène jusqu'à la question éthique, c'est aussi pour moi une manière de parler depuis Généalogie 2000, année même de la création de ma mise en scène dans la solitude des champs de coton, jusqu'à Le sens du monde. C'est pas rien comme titre, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Dans la mesure où c'est aussi mon approche méthodologique et, pour utiliser un grand mot, épistémologique, qui a changé. Entre les deux livres, je dirais que autant le premier livre est davantage inspiré par, je dirais grosso modo, la philosophie de Jacques Derrida, c'est-à-dire la déconstruction. On voit bien comment ce texte peut prêter à une analyse de déconstruction. J'essaierai d'y revenir au fur et à mesure de ses paroles. Il se serait déplacé pour donner deux paradigmes comme ça de ce qu'on a pu appeler la French Theory ou du post-structuralisme. Il s'est déplacé plutôt vers des questions deleuziennes en quelque sorte, hein, d'où le sens du monde. Le premier livre s'intéressait davantage donc aux différentes généalogies. Je dis Derrida, c'est un peu Nietzsche aussi, hein, c'est-à-dire, et d'ailleurs le Nietzsche de Deleuze. Vous savez peut-être que Deleuze a écrit un livre sur la philosophie de Nietzsche qui s'appelle Nietzsche et la philosophie, tout simplement. Et dans lequel Deleuze donne cette définition très, très brève, très rapide, très, très ramassée, très synthétique du mot généalogie. Il dit ce qui est généalogique, c'est ce qui est de l'ordre du différentiel et du génétique. Donc c'était pour moi, la question était pour moi d'essayer de voir ce qui, dans l'œuvre de Coltès, se créait tout en se déplaçant, l'intuition de départ étant que il y a quasiment une dramaturgie par pièce. Et moi, c'est ce qui m'a toujours fasciné chez cet auteur, c'est que dans chacune de ses pièces, il reprend, c'est presque comme s'il repartait de zéro. Il remet en question à chaque fois sa manière d'écrire du théâtre. Et donc cet angle de la généalogie était justement le moyen d'essayer de voir ce qui se construisait petit à petit dans l'œuvre, ce qui s'est construit petit à petit dans l'œuvre, tout en se déplaçant à chaque fois, c'est-à-dire ce qui se posait différentiellement d'une pièce sur l'autre. Et peut-être j'en parlerai un petit peu entre Key West et Dans les Sulis des Champs de Coton tout à l'heure, qui sont les deux pièces qui se suivent chronologiquement et entre lesquelles il y a certains rapports qui sont assez à la fois étranges et en même temps étranges et déroutants et en même temps assez consternants. C'est à l'évidence la même question qui se pose, mais de manière déplacée, dans un autre univers, avec d'autres personnages et avec une autre dramaturgie. Vous avez peut-être eu l'occasion de lire Key West également. Key West, c'est la pièce donc écrite juste avant par Coltès. C'est une pièce à 8 personnages, pas du tout une pièce à 2. C'est une pièce qui se présente vraiment comme une pièce de théâtre, avec des dialogues, avec toute la gamme possible des dialogues, avec toute la gamme possible du nombre de personnages présents dans une scène. Vous avez des scènes à 1, des scènes à 2, des scènes à 3, des scènes à 4, jusqu'à des scènes à 8, les 8 personnages présents. Donc avec vraiment tout un appareil dramaturgique varié, le plus varié possible, alors que, vous le savez, dans La solitude de Champs de Coton, ne se présente pas vraiment comme une pièce de théâtre, ne s'indique pas comme une pièce de théâtre, ne possède pas de didascalie, à part cette première définition étrange et pseudo-encyclopédique du deal, hein, et ensuite ne possède pas d'autres didascalies externes, en tout cas, que les noms des deux personnages. Il y a pourtant entre ces deux pièces des rapports assez confondants qui sont d'autant plus intéressants peut-être à imaginer que l'on croit savoir que Coltès commençait à écrire dans les solitudes des Champs de Coton tout en assistant aux répétitions que Patrice Chéreau faisait de Key West. C'est la pièce qui suit, donc Key West, Chéreau était en train de travailler Key West, lui pensait déjà à la pièce suivante et ça n'est peut-être pas justement sans cette idée d'un écho possible entre les deux que Dans la solitude reprend des thèmes, des postures de dialogue, des hypothèses de discours également qui se déportent donc d'une pièce à l'autre. Hein. Alors, le dernier livre, pour situer juste un petit peu mon propre accompagnement de cette œuvre, si vous voulez, le dernier livre, c'est un livre qui n'aurait pas été possible sans, et là encore, je voudrais en remercier François, sans la publication de la correspondance de Coltès, ou tout au moins de ce qui est trouvable et publiable en ce moment de la correspondance de Coltès. Livre magnifique, paru en 2009. Aux éditions de Minuit, qui rassemble sur 600 pages à peu près un ensemble de lettres écrites par Coltès lui-même. Il n'y a pas les lettres, les réponses des destinataires de ces lettres. Mais on suit tout le parcours. Il y a aussi bien des lettres de Coltès tout enfant que des lettres de Coltès presque mourant. La plus grosse période, la plus grande concentration de lettres se situant plutôt sur la décennie 70, c'est-à-dire sur la période où Coltès n'est pas encore Coltès, si on peut dire, n'a pas encore obtenu la reconnaissance qui est la sienne et que va lui donner essentiellement en termes de notoriété, de publicité, d'internationalité, la mise en scène à peu près systématique pendant les années 80 de ses pièces par Patrice Chéreau. C'est un Coltès tout aussi intéressant, dont les pièces ont été publiées après sa mort, ce Coltès des années 70. C'est surtout lui qu'on lit quand on lit cette correspondance. Si vous regardez les lettres, vous l'avez peut-être déjà fait, vous trouverez très peu de choses relatives à Dans la solitude des champs de coton, relatives à la période couvrant l'écriture de Dans la solitude des champs de coton. Mais je crois qu'on peut inférer un nombre de remarques particulièrement intéressantes venant justement de la période antérieure. Coltès n'a jamais été, à la différence d'autres auteurs que vous êtes amenés à pratiquer en littérature, n'a jamais été à proprement parler un théoricien. Il n'a jamais doublé la publication de son œuvre, qui est essentiellement une œuvre théâtrale, mais dans laquelle il faut compter aussi du roman, des nouvelles, des scénarios pour le cinéma, notamment. Il n'a jamais doublé cette correspondance de textes plus théoriques. Néanmoins, les entretiens qui ont paru sous le titre « Une part de ma vie », un petit peu après sa mort, la correspondance et également un certain nombre de paratextes, textes qu'il pouvait écrire pour des programmes de mise en scène, pour parfois des revues ou magazines de son époque. Ces textes sont d'une intelligence remarquable et troublante, d'autant plus troublante qu'elle n'est pas référée. Tu as parlé de mes travaux sur Barthé Blanchot, par exemple. Elle n'est pas du tout référée, où je parlais tout à l'heure de Derrida ou de Deleuze, elle n'est pas du tout référée à ce type de lecture qui était pourtant les écritures contemporaines de Coltès aussi. Barthé Blanchot, Derrida, Deleuze ont écrit pendant ces années. Ça n'était manifestement pas les lectures de Coltès. La manière qu'il avait très, très singulière de saisir de véritables problèmes théâtraux font de certaines de ses lettres ou de certains des entretiens des sortes de presque parfois de petits manifestes dans lesquels plusieurs idées sont amenées à fuser et à être qui peuvent véritablement être soumises à notre réflexion. D'un point de vue de professeur, de cagne ou universitaire, c'est autant de sujets de dissertation, parce que ce sont des textes, ce sont des petites phrases très, très denses qui donnent véritablement beaucoup à penser et qui ne sont pas justement étayées par le propre discours de l'auteur. Bon, voilà peut-être pour situer un petit peu ce que j'aimerais vous dire. On va essayer de procéder de la façon suivante. Je vais essayer de suivre un petit peu ce parcours que j'ai préparé ou anticipé. Catherine viendra à mon secours quand je n'aurai plus rien à vous dire. Et vous viendrez au secours de Catherine quand elle n'aura plus de questions à me poser. J'aimerais particulièrement, précisément, vous entendre aussi, si vous avez des questions, des remarques à faire. C'est toujours précieux de voir quel peut être votre regard aussi sur cette pièce ou sur cette œuvre. Et François, Florence, si à un moment donné vous voulez intervenir, évidemment, ne vous en privez pas. Donc j'ai dit que je commençais en parlant de mon approche de cette pièce, justement. C'est-à-dire que parmi les pièces que j'ai montées, il y en a une seule de Coltès que j'ai montée intégralement, c'est Dans la solitude des champs de coton. C'est pas une mise en scène qui a fait date, c'est une mise en scène qui a été travaillée quand même très professionnellement, avec deux acteurs, évidemment deux, avec également, c'était un travail très important pour moi à l'époque, un éclairagiste et un peintre, scénographe pour l'occasion. Et je voulais vous parler un petit peu de ce travail, non pas pour ressusciter un travail oublié, dont il reste une toute petite trace dans le magazine littéraire qui avait paru, le numéro du magazine littéraire, le dossier Coltès, qui avait paru à l'époque en 2001, je crois, juste après. Si jamais ça vous tombe entre les mains, dites-vous simplement que le titre n'est pas de moi. C'est le titre de la rédaction, c'était un titre horrible. C'est Christophe Bidan, deux points, je lis Dans la solitude des champs de coton comme une pièce transcendantale. Ça veut rien dire, pour moi en tout cas, ça veut rien dire. Ce que j'avais essayé de dire à l'intervieweur, c'est qu'il y avait pour moi dans cette pièce Une sorte de mise en question de ce que le langage pouvait être amené à dire du désir. Et en ce sens, c'était une forme de transcendentalité, c'est-à-dire au premier sens kantien, tout simplement, sans même aller dans la philosophie de l'espace ou du temps chez Kant, hein, mais simplement transcendantal au sens, c'est ce qui rend, c'est la condition possible à. C'est ce qui rend une expérience possible. Hein. Ce sont les conditions de position, je dirais presque après, de manière post-kantienne, phénoménologique, de la possibilité de l'expression d'une expérience. Et c'est ce qui m'intéressait dans cette pièce, c'est que. Cette pièce, elle fonctionne, je crois que vous l'avez tous déjà entendu, hein, sur un paradoxe fondamental, qui est que elle est censée plus ou moins décrire une situation amenée à durer 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, un deal, et elle se déplie, elle se déploie, elle déplie ce langage pendant 1h30, c'est à peu près la durée moyenne des représentations de cette pièce. Hein. C'est son côté, d'une certaine manière, on l'a déjà rapproché, son côté proustien, par exemple, c'est-à-dire ce dépli des conditions de possibilité de la mémoire, des conditions de possibilité du langage, de tout ce qui peut se tramer dans une expérience réduite à quelques instants, mais qui met en jeu, qui met en cause, qui met en évidence à la fois un passé, un désir, des perspectives, un projet, une contradiction, la contradiction d'une rencontre, etc. Donc quelque chose qui, dans le temps de l'expérience, est totalement noué, mais qui se dénoue, qui se déplie dans l'ensemble de la pièce, et c'est ce qui donne un peu sa structure, là aussi que vous connaissez, c'est-à-dire une structure avec... Grosso modo, hein, je le dis un peu rapidement, avec une première moitié de pièce où les échanges sont très longs entre chacun des protagonistes, 3, 4, 5 pages à peu près de répliques. Et puis, petit à petit, à partir d'ailleurs à peu près du moment où le titre est relancé par la pièce, le seul moment où il est cité, dans la solitude d'un champ de coton, au singulier cette fois, suit encore une réplique assez longue du client, et puis petit à petit après le dialogue va s'égrener et va ressembler davantage à ce qu'on appelle de manière coutumière un dialogue, c'est-à-dire des échanges plus rapides, à la limite sur la toute fin de l'asticomitie, c'est-à-dire, vous savez, dans la tragédie classique, ces répliques qu'on appelle parfois aussi en escalier, qui durent moins d'un vers, hein, et dans lesquelles même à l'intérieur d'une tragédie classique française très très cadrée ou très calibrée, permettent à un moment donné de donner un coup d'accélérateur sur l'action, tout simplement. Donc c'est ce qu'on a sur la fin de la pièce avec cette fameuse dernière réplique, alors qu'elle arme, totalement suspendue, et à laquelle évidemment personne ne répondra jamais. Soit dit au passage, justement, cette réplique alors qu'elle arme fascinait les deux comédiens avec qui Pierre-Antoine Villemain et Jacques Coudert. Villemain, qui a plutôt un parcours d'acteur lié à des expériences de théâtre non théâtral, hein. C'est quelqu'un qui a monté Georges Bataille, qui a monté Maurice Blanchot, qui a monté Paul Celan, des textes de Giacometti aussi, par exemple. Et Jacques Coudert, je le dis rapidement comme ça pour ceux qui éventuellement connaîtraient un petit peu le milieu théâtral, qui était un ancien du Radeau, donc de la troupe dirigée par François Tanguy. C'est-à-dire un type de théâtre qui travaille beaucoup sur l'expérience de l'acteur, sur la déconstruction sur la déconstruction aussi bien par le langage que par le matériau théâtral qui se il y a un décor planté qui se déconstruit comme ça petit à petit en cours de route. C'est-à-dire donc des gens qui ne sont pas dans le aussi bien l'un comme l'autre, les deux acteurs, qui ne sont pas dans la perspective de créer des rôles. C'est-à-dire qu'ils se vivent plutôt comme des acteurs qui prennent des fragments de langage, hein, et qui se les envoient les uns aux autres. On a commencé à travailler comme ça. On a commencé à travailler dans une perspective que j'appelais tout à l'heure déconstructionniste, c'est-à-dire en prenant en compte qu'il ne s'agissait pas de créer des rôles. La question qui reste pour moi très énigmatique aujourd'hui, j'ai eu l'occasion dans l'un des livres, celui que tu citais tout à l'heure, Coltès maintenant, un recueil d'actes de colloque, d'en discuter avec un ami, un professeur à l'Université de Provence qui s'appelle Yannick Butel, et avec qui on a engagé un dialogue sur cette question. Est-ce que le dealer et le client parlent la même langue? Je n'ai toujours pas véritablement de réponse à cette question. J'y reviendrai peut-être après. En tout cas, c'est à partir de l'hypothèse qui consisterait à dire, en tout cas, que ces deux personnages ont la même langue, parlent la même langue, que nous avons commencé à travailler. C'est-à-dire que les comédiens s'adressaient plutôt des fragments de langage, c'est-à-dire, je dirais, tout simplement, tout simplement et fondamentalement, des fragments poétiques de langage, plutôt que des répliques qui viseraient à constituer ou à déconstituer, selon le rapport agonal que peuvent avoir des personnages d'une pièce de théâtre, qui viseraient donc à constituer ou à déconstituer des personnages. C'est quand même le paradoxe, un deuxième paradoxe de cette pièce, que de ne pas avoir d'autres didascalies externes finalement que le nom des personnages, dealer, client, qui semble s'apparenter finalement à une situation, je dirais presque, en tout cas quotidienne, si ce n'est habituelle, elle ne fait pas partie forcément des habitudes de tous, mais en tout cas c'est une situation qui se répète dans la quotidienneté de au moins de certains. Hein. Et donc qui sont présentés plutôt comme presque comme des types ou des prototypes de personnages qui finalement sont décrits à travers ce type ou ce prototype de manière, on pourrait dire rapidement, plus sociologique que psychologique. Et donc, si on veut tenter de les construire, ces personnages, par le jeu de la pièce, par la mise en jeu de la pièce, il faut les remplir. De quoi se remplissent-ils? Ils se remplissent uniquement d'échanges de langage, et de sacrés échanges de langage, puisqu'on a affaire à de véritables blocs. Vous savez que Coltès évoquait ces dialogues sous forme de monologues croisés, plutôt que d'un véritable dialogue, évoquant par là même aussi la manière génétiquement, je parlais de généalogie tout à l'heure dans la généalogie de la génétique, la manière dont génétiquement il écrivait la pièce, c'est-à-dire en écrivant un jour une réplique de dealer, un jour une réplique de client, sans savoir encore exactement dans quel ordre il allait les disposer. Et ça, c'est assez intéressant aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais parti justement de cette idée qu'il ne s'agissait pas exactement qu'il ne s'agissait pas même comme un point de départ, comme un a priori de travail dramaturgique, de travail scénique, de travail au plateau, qu'il ne s'agissait pas de construire des personnages, de constituer, de déconstituer, de construire, de déconstruire des personnages, mais plutôt de faire en sorte que ces acteurs s'envoient au sens le plus noble de l'envoi, comme on parle de l'envoi comme une dédicace, c'est-à-dire comme d'une offre ou d'une offrande, et là il y a déjà une dimension éthique, que ces personnages donc s'envoient des fragments de langage, s'envoient des fragments de poésie. Vous voyez bien comment chaque réplique, même de 5 pages, est construite avec des métaphores, parfois même très des métaphores animalières, presque naïves parfois, l'abeille qui butine, etc. Enfin, on peut passer parfois de métaphores extrêmement complexes à des métaphores extrêmement naïves. Un statut très, très différentiel, très varié de la métaphore dans le texte, avec une armature syntaxique extrêmement rigide, soulignée par la sur-argumentativité du texte, les c'est pourquoi, par conséquent, alors, etc., qui sont extrêmement, extrêmement présents. Et également par une rythmicité, et pour moi et pour quelques autres, je pense entre autres à un travail de recherche que fait en ce moment, tu connais bien aussi, Amin Erfani, qui a traduit des textes de Coltès en anglais, qui a travaillé également à des mises en scène, qui travaille beaucoup sur la question du souffle dans cette pièce. Alors, j'en profite d'ailleurs juste un petit petite référence bibliographique supplémentaire, puisque tu n'en as pas parlé, mais tu es quand même aussi le co-auteur de ce numéro qui va paraître, et tu en as déjà probablement parlé à tes étudiants, aux étudiants, hein. La revue de l'UFR, Lettres Art Cinéma, c'était STD, j'oublie, qui s'appelle donc Textuel, UFR de Lettres Art Cinéma à l'Université Paris 7, va publier, alors on a remis le manuscrit cette semaine, va publier probablement en janvier, au plus tard en février, un numéro sur Dans la solitude des champs de coton. Un numéro que j'ai co-dirigé avec Sylvie Patron et Arnaud Maizetti, dans lequel je n'ai pas écrit de nouveaux textes. Je te disais, je me sens un petit peu à sec maintenant sur Coltès. Je pense avoir dit à peu près tout ce que je pouvais en dire, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. C'est pour ça que je reviens un peu sur un parcours avec vous. Mais dans lequel on trouve un article justement d'Amin Erfani sur ces questions. Un très bel article dont je vous dirai deux, trois mots aussi tout à l'heure de Chloé Larmé sur la question de l'hypothèse dans la pièce. Non, je vous parlerai un petit peu tout à l'heure aussi, le « si », ça commence par un « si » et c'est pas indifférent que cette pièce repose quasiment. Vous savez, à un moment donné, on parlait de métaphore, il se demande si le monde repose sur une corne de taureau ou sur le dos d'une baleine. La pièce, en tout cas, repose sur un « si » inaugural qui est absolument fondamental, autour duquel, je crois, beaucoup de textes critiques et beaucoup de mises en scène ont tourné depuis presque 27 ans maintenant que cette pièce a été écrite, mais sans que la question soit vraiment, je crois connaître à peu près toute la littérature critique qui s'est écrite sur Coltès, sans que vraiment la question soit traitée, et l'article de Chloé Larmé est passionnant de ce point de vue. C'est, elle prend vraiment dans une sorte de posture qui est celle d'une philosophe du langage. Elle prend vraiment cette question de l'hypothèse au sérieux et essaye d'établir une sorte de, à la fois de tableau, d'échiquier, de réseau, de réseau de propositions linguistiques, de phrases, hein, et essaye de voir comment cette question de l'hypothèse de l'hypothèse inaugurale, mais de l'hypothèse ensuite reprise et retravaillée, parce que les si et les conditionnels, ils sont légion dans le texte, hein, comment ça se transmet de phrase en phrase et de réplique en réplique dans l'ensemble de la pièce. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc, pour revenir à ce point de départ dans mon approche de la pièce, il s'agissait surtout de travailler, donc vous l'aurez compris, de manière plus langagière et poétique que de manière psychologique et dramaturgique, en se disant, voilà, ces deux personnages s'envoient des blocs de langage, s'adressent, se donnent généreusement des blocs de langage. Je dis vraiment généreusement, et c'est là la dimension éthique de la pièce, parce que si vraiment la violence était présente dès le départ, ça tournerait court, la pièce ne pourrait pas avoir lieu d'être. Donc si cette pièce existe, si le deal du langage, parce que c'est d'abord un deal de langage, si le deal de langage peut continuer ainsi pendant en gros 1h30, encore une fois c'est la durée moyenne des mises en scène de cette pièce, c'est que chaque personnage a suffisamment de respect pour la langue de l'autre pour pouvoir continuer l'échange. Même s'ils ne s'entendent pas, même si le langage se détériore, même si précisément il va venir au bord de l'arme et donc de la violence, mais ne va pas passer précisément à l'étape de la violence. Et ça, c'est quelque chose que vous avez, un autre critique de Coltès qui a beaucoup écrit sur lui, qui est Christophe Triot, a écrit une fois un article sur ce qu'il appelait le dénouement sans résolution des pièces de Coltès. Alors vous vous centrez surtout sur la solitude, mais sachez par ailleurs que c'est quelque chose qui caractérise vraiment la fin des pièces de Coltès, c'est qu'il y a toujours une suspension, il n'y a pas de résolution. La dernière pièce, par exemple, Roberto Zucco, Zucco se jette dans le vide. Mais l'indication, c'est précisément, il se jette dans le vide. C'est pas, il se crache par terre. À la fin de Key West, un personnage tire sur un autre. Mais la description, c'est pas la balle arrive dans le cœur de l'autre. Hein. Alors probablement, si on se jette dans le vide, on va mourir, et probablement, si on tire sur l'autre qui est à 3 mètres devant vous, la personne qui est en face va mourir. Hein. Mais jamais l'acte n'est finalisé, jamais la violence ne passe totalement à l'acte. Et c'est un petit peu, de façon plus élégante encore, puisque par la médiation du langage et non pas par la didascalie externe, ce qui se passe avec la fin de Dans la solitude des champs de coton. Alors, quelle arme? On n'en est même pas encore. C'est comme un duel, finalement. Hein. Quelle arme va-t-on choisir? C'est comme un duel sans loi, sans règle, puisque dans un duel, c'est l'offensé qui choisit l'arme. Là, il n'y a pas d'offensé, précisément. Le choix de l'arme, si la question est posée, c'est que la question peut se poser et qu'elle n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Et c'est, vous voyez, je suis déjà à l'éthique, finalement, d'une certaine manière. C'est ce qui garantit le contact éthique, ce qui va garantir cette dimension éthique de l'échange, hein, entre les deux personnages jusqu'au bout. Il y a un respect, et un respect qui passe par le respect du corps de l'autre, un respect qui passe par le respect du vêtement de l'autre. Il y a une phrase assez énigmatique à un moment donné dans la pièce où Coltès écrit, je ne sais plus, à dire vrai, je crois que c'est le dealer qui la prononce, mais vous me corrigerez si vous connaissez la pièce par cœur à force de la travailler, que la chose la plus digne du monde, c'est le vêtement. Hein, c'est pas donc c'est ni le corps ni le visage en termes d'éthique. On pourrait penser à Lévinas et à la fameuse éthique du visage, hein, qui n'est pas seulement le visage d'ailleurs, d'un point de vue concret, mais ni le langage. Hein, ça va jusqu'au vêtement. Autrement dit, d'un point de vue théâtral, l'accessoire, l'objet qui vous permet de vous présenter sur scène autrement que nu, mais qui d'une certaine manière traduit aussi quelque chose de votre nudité, c'est-à-dire qui offre aussi, par métonymie finalement, hein, vraiment par juxtaposition, une image de votre être qu'il faut aussi, elle, respecter. Donc le respect est partout, me semble-t-il, même jusque dans la violence échangée. Parce que c'est là le deuxième point sur lequel je voudrais en venir, dans cette approche de la mise en scène que j'avais faite, c'est que, autant nous nous sommes dit avec les comédiens, autant je leur ai dit, vous allez vous envoyer des blocs de langage, et comme je vous le disais, par leur formation eux-mêmes, pas forcément leur formation, mais tout au moins par leur expérience, l'un de metteurs en scène de textes plutôt poétiques ou esthétiques, l'autre d'acteurs de François Tanguy, ils étaient très habitués à jouer ça et non pas à jouer des rôles, à la Stanislavski si vous voulez, hein, pas habitués forcément à donc transformer leur personnage en rôle, à incarner, à justifier, à identifier, à incorporer. Il y avait quelque chose, peut-être d'une certaine manière de plus brechtien, hein, en tout cas, c'est-à-dire le texte devant, le texte à distance comme un texte poétique qu'on prononce et qu'on respecte jusque dans sa poéticité elle-même, précisément. C'est-à-dire qu'on le dit comme un poème et qu'il le disait comme un poème. Or, ce qui est particulièrement étonnant, c'est que la psychologie nous a rattrapés. La psychologie les a rattrapés. Et du coup, les amis, probablement, à la meilleure place à laquelle il pouvait être. C'est-à-dire non pas en commençant par la psychologie, non pas en présupposant que un dealer devait être comme ci ou comme ça, ou que le rôle du dealer, c'est quelqu'un qui allait, dès la première réplique, se charger, se constituer et permettre de donner au public, au lecteur, au public, une idée de son identité. Non pas donc en affirmant d'emblée, par un nom ou par une première réplique longue, la postulation d'une identité, mais au contraire, précisément, en acceptant de jouer le jeu de la poéticité du langage, se faire rattraper parce que ce langage, finalement, véhicule. Alors, ça s'est passé progressivement au cours des... On a répété sur 1 mois d'abord et 2 mois ensuite, avec une pause entre les deux. Ça s'est passé plutôt dans la période des 2 mois qui précédaient le spectacle, mais très vite dans cette période de 2 mois. D'abord, ça a été une remarque qu'a faite un soir un acteur, je m'en souviens encore, ça nous a beaucoup frappé. L'un avait perçu quelque chose que l'autre n'avait pas encore perçu, qui est que dans le texte, vous avez des répliques qui répondent à d'autres répliques, jusque-là, c'est normal. Sauf que ça n'est pas forcément la première réplique du client qui répond à la première réplique du dealer, quoique des éléments en sont très clairs, puisque la première réplique du dealer commence par « si vous marchez de l'or, si vous marchez dehors » et que l'autre répond « je ne marche pas en une certaine heure, en un certain lieu, etc. » Donc il y a bien évidemment quelque chose dans la première réplique du client qui répond à la première réplique du dealer. Mais par contre, on se rend compte aussi que, alors je vous citerai comme ça, comme une sorte de pur hasard, hein, je ne sais plus exactement quelle réplique répond à quelle autre, mais il y a, si vous voulez, par exemple, quelque chose dans la septième réplique du client qui répond à la troisième réplique du dealer. Donc, il y a, alors ça renforçait mes hypothèses d'Héridienne avec la pièce, si vous voulez, il y a comme une sorte de différence avec un A ou de différé, hein, de la réplique, c'est-à-dire que le langage ne répond pas, un morceau de langage ne répond pas forcément immédiatement à un autre morceau de langage. Hein. C'est parfois beaucoup plus tard que l'un répond à l'autre, ou parfois, de façon plus subtile encore, la réponse précède la question. Voilà, donc on a une sorte de composition totalement, certains l'ont rapproché d'un montage cinématographique à la Eisenstein ou à la Godard, c'est-à-dire de gens qui travaillent véritablement la question du montage en assemblant les éléments de manière composite, décalée, différée, hétéroclite en tout cas. Il y a un montage hétéroclite, probablement très concerté de la pièce, parce que la deuxième remarque que l'autre comédien a faite, et c'était un ou deux jours après, c'est qu'il ne supportait plus de s'envoyer ses répliques. Il ne le supportait plus. C'est-à-dire qu'il y avait... c'est là que la psychologie a véritablement fait retour. Il y avait une violence dans l'échange. Hein. Vous savez, imaginez quoi, cette pièce, vous la lisez, et vous la lisez dans une perspective aussi de concours. Les gens qui la travaillent tous les jours dans l'obscurité, hein, dans la salle obscure d'un théâtre, et qu'il la répète 10 fois une journée, la même réplique parfois pour la retravailler. Bon, on l'intègre. Donc ce qu'ils avaient intégré, c'était pas forcément la constitution d'un personnage, mais ce qu'ils avaient intégré, c'était tout ce que pouvait charrier un langage, toute une énergie, tout un désir, toute une violence. Hein. Et il y avait quelque chose que l'un des acteurs, le client en l'occurrence, n'arrivait plus à supporter de ce que l'autre lui envoyait. Bon, c'est, évidemment, on a repris le travail aussitôt quand même, etc. Mais enfin, il y a eu une pause, il y a eu un moment vraiment de besoin de faire une longue pause. Hein. On a dû poser une heure dans l'après-midi, un moment où on s'attendait pas à poser, parce que ça commençait à le prendre vraiment dans sa propre subjectivité, tout simplement. Voilà. Donc, et je crois que c'était assez lié au fait que nous avions fait un jour ou deux auparavant justement cette remarque sur la disparité ou le décalage de l'échange. C'est-à-dire que tout d'un coup, il se rendait compte que finalement, quand il disait quelque chose, ce quelque chose répondait à une autre réplique. Et là, quand vous aviez les deux phrases en face, ça faisait mal. Voilà, donc je pense qu'il y a dans cette pièce, pour tenter de la lire également d'une manière généalogique, si vous voulez, il y a dans cette pièce quelque chose qui déjoue la linéarité. La linéarité, finalement, peut être trop facile ou trop superficielle. Vous feuilletez la pièce, vous ouvrez le livre, vous voyez qu'il y a des très longues répliques au début, des très courtes répliques à la fin, et après tout, j'ai commencé comme ça, avec une phase un petit peu transitionnelle à un moment. Et on pourrait dire très vite, bah oui, finalement, ils s'opposent des arguments, et tout d'un coup, ils n'ont plus rien à se dire, et ils en viennent, il y a une espèce de mise à nu qui se fait et qui précipite la fin. Je crois que c'est vrai, et en même temps c'est doublé d'autres choses, c'est un peu plus compliqué, complexe, disons que cela. Ça met en jeu de véritables énergies qui sont envoyées et renvoyées, de véritables paroles qui sont envoyées et renvoyées d'un personnage à l'autre. Et je crois que c'est ça qui est important, de pouvoir se rendre compte de quelle réplique va vous toucher en écho à une autre réplique. Alors, j'ai commencé sur cette question de la manière dont je lisais cette pièce, grosso modo, vous l'aurez compris, plus poétique que psychologique, même si à un moment donné, justement, la psychologie nous rattrape au lieu même du poétique, et c'est là peut-être qu'elle propose justement l'hypothèse la plus riche. Je dois dire que si j'ai mis en scène cette pièce, donc en 2000, c'était précisément, alors dans une espèce d'ambition qu'on peut avoir délirante, qu'on peut avoir à 35 ans et qu'on n'a plus à 50, contre la mise en scène de Patrice Chéreau, contre la troisième mise en scène de Patrice Chéreau, qui est probablement en plus de l'aveu de tous. La plus réussie de ces trois mises en scène de la pièce. Alors, je dois confesser à la fois une humilité et un orgueil. L'humilité, c'est que j'étais sorti de cette pièce qui avait été donnée, en tout cas en région parisienne, à la manufacture des œillets à Ivry, absolument sidéré, emballé, lévitation absolue par l'interprétation. Vous la connaissez peut-être, hein, puisqu'elle existe en captation. L'interprétation donc de Chéreau et de Grégory, avec ce dispositif bifrontal, avec une série d'effets de lumière, de bruit, etc., qui, avec la fameuse danse sur la musique de Massive Attack qui interrompt le dialogue à un moment. Voilà, donc à la fois tout pour plaire dans la séduction, les deux amants qui s'envoient le texte, Chéreau Grégory, voilà, et tout pour plaire également dans le dispositif théâtral, scénographique qui était mis en place et qui fonctionnait à merveille. Bon. Encore une fois, de l'aveu de tous ou presque tous, c'est des trois mises en scène de Chéreau, la mise en scène la plus réussie, à tel point même que d'ailleurs cette question dont tu reparles entre autres dans ton article, de ce que Chéreau reprenait un rôle que Coltès avait écrit pour un noir, ou disait avoir écrit pour un noir, parce que rien dans le texte à proprement parler, sauf un ou deux passages, en tout cas aucune des 10 qualités externes non plus, à la différence d'autres pièces de Coltès, ne précise que le dealer est véritablement ou doit véritablement être joué par un noir. Autre question qui pourrait se poser avec d'autres pièces de Coltès aussi, qui se sont posées. Cette question-là ne s'est plus posée. Curieusement, finalement, parce que c'est plus posé à la troisième mise en scène. Vous savez, grosso modo, l'historique des trois mises en scène. À la première mise en scène de Chéreau, c'est Isaac de Bancolé, noir, donc, dans le rôle du dealer. Bancolé ne suit pas la reprise, donc, avec donc Laurent Mallet dans le rôle du client. Isaac de Bancolé ne suit pas la reprise l'année suivante de la pièce. Donc, Chéreau reprend le rôle du dealer et la Coltès lui dit, mais non, c'est un noir que je voulais, ça marche pas, dispute. Et puis, la troisième version, après la mort de Coltès, Chéreau reprend une nouvelle fois le rôle du dealer et personne à ce moment-là enfin mon souvenir en tout cas, ou en tout cas si on en a parlé c'est très très peu, personne à ce moment-là ne repose cette question qui s'était posée une dizaine d'années plus tôt, hein, 86 pour la première, 87 pour la deuxième et 95 je crois pour la troisième. Voilà, donc humilité de spectateur, hein, une pièce absolument réussie, etc. Et puis quand même, à la sortie, et progressivement, dans la soirée, dans la nuit, le lendemain, etc., l'idée que quelque chose ne va pas. Et plus cette idée, je la creusais, plus je me disais, non seulement ça va pas du tout, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans cette mise en scène de Chéreau. Et il me semblait que, j'avais bien perçu deux ou trois choses. Moi, ce qui avait... C'est pas que ça soit... J'allais dire ce qui m'avait gêné. C'est pas vrai, ça m'a pas du tout gêné au moment de la représentation. Je m'étais posé la question et j'étais sorti avec cette question. La manière de dire le texte. D'ailleurs, Chéreau et Grégory le disent pas exactement de la même manière. En tout cas, tous les deux sont quand même plutôt dans une version, on va dire, contemporaine, moderne, actuelle, je ne sais pas comment dire exactement, mais enfin, c'est-à-dire que certaines syllabes sont apocopées, avalées, donc un langage pas populaire, mais en tout cas, il y a une familiarisation de la langue, de cette langue qui est quand même très écrite, très syntaxique, jusqu'à jouer avec certaines formes de la syntaxe du 17e. Et je vous invite d'ailleurs quand même dans les lettres à regarder une lettre de Coltès datant de 85, je crois, hein, au moment où il écrit La Solitude et où il écrit à François Regnault, en évoquant tous les problèmes de syntaxe qu'il a en écrivant cette pièce. De votre point de vue, d'ailleurs, de Cagneux préparant un concours, c'est particulièrement intéressant parce que c'est tout à fait citable, utilisable, exploitable. Quels sont les problèmes de Coltès avec sa propre syntaxe, à tel point qu'il pose à François Regnault, qui est censé avoir plus de connaissances grammaticales, linguistiques que lui, la question de savoir comment on écrit ça dans une bonne syntaxe classique française. Vous aurez probablement remarqué que la première phrase déboîte totalement la syntaxe normalement attendue. C'est ce fameux quiconque qui, qui est tout à fait dans la première phrase du texte, qui est tout à fait incorrect d'un point de vue syntaxique classique. Bon, donc Chérault et Grégory traitaient cette langue de manière un petit peu plus familière. Je dirais qu'il y avait comme une espèce de familiarisation de la langue. Chez Grégory, plus encore que chez Chérault. Si vous regardez les captations, c'est très manifeste. Et ça me chiffonnait un peu, pas par point de vue puriste de quelqu'un qui aurait fait des études de Cagne comme vous, mais parce que je n'entendais plus au final la même musique. Parce que si vous regardez, c'est pas seulement une question de syntaxe, et c'est pour ça que je parlais de rythme, de rythmicité tout à l'heure, et que j'avais dit que je reviendrais sur cette question du rythme, c'est que partout, si, je ne sais pas où vous en êtes exactement les uns et les autres de votre programme, si vous avez déjà étudié la pièce ou pas, mais partout vous avez dans cette pièce des alexandrins cachés, en tout cas ça joue beaucoup avec les rythmes de la métrique française. Vous savez qu'il y a cette fameuse phrase de Coltès où il dit que ses racines sont à l'intersection de et du blues. Tu te souviens de la phrase de... J'ai un petit doute à l'instant, vous la trouvez dans Une part de ma vie. Grosso modo, c'est en tout cas ce qu'il. Je ne sais plus la citation exacte, mais en gros, c'est ça. C'est mes racines se situent à l'intersection de la langue classique française, il dit un truc vaguement comme ça, et du blues. Donc, d'une structure syntaxique régulière, normée, pour ne pas dire orthonormée, qui fonctionne beaucoup plus, vous le savez, par rapport à la prosodie anglaise, par exemple, sur les syllabes que sur l'accentuation, donc quelque chose quand même de beaucoup plus géométrique que... immédiatement dans une forme de subjectivation possible de la prosodie, dans une forme d'objectivité de la prosodie. Donc ça joue beaucoup avec cette structure de la langue, tout en la déplaçant, tout en lui la faisant boiter, tout en la débordant. Et si vous essayez de regarder, la première phrase par exemple est très très explicite à cet égard, si vous essayez de regarder la structure des différents éléments de la phrase, vous allez retrouver des structures prosodiques françaises coutumières et qui sont éventuellement légèrement décalées, et quand c'est décalé, ça fait porter précisément la prononciation, l'accentuation sur un mot, sur une syllabe inattendue qu'elle va particulièrement mettre en évidence. Donc voilà, c'est ce qui me gênait un petit peu dans la prononciation par Chérault et Grégory de cette pièce, dans la diction de cette pièce, c'est qu'on n'entendait plus la même musique. La même musique, la même que quoi, la même que celle que j'entendais moi, en tout cas, en lisant le texte de façon plus classique peut-être. Et je cherche pas à dire que c'est la meilleure manière de le lire, simplement il y a au moins deux manières de le lire, et il y a une manière qui est plus classique finalement peut-être, qui aurait été la mienne, et puis une manière plus familière et qui aurait été celle de Chérault et de Grégory. Bon, mais ça, c'était plutôt comme un indice, finalement, à quelque chose qui clochait. Bon, j'en avais deux ou trois autres, et puis surtout, ce qui m'est apparu, en fait, c'est que, et peut-être que c'était surjoué par le fait que vous aviez deux amants, l'un en face de l'autre, et l'un dominant, évidemment, l'autre, qui était Chérault, dominant Grégory, si vous avez peut-être vu la captation de la pièce, vous savez peut-être qu'il y a eu, vous l'avez peut-être vu aussi, un documentaire qui avait été fait à la même époque, puisque Chérault, dans un premier temps, avait refusé que la pièce soit filmée, et puis finalement a accepté. Mais dans un premier temps, il avait accepté que les que les répétitions soient filmées, que les échanges à la table, comme on dit, entre le metteur en scène et le comédien, metteur en scène comédien et l'autre comédien, soient filmés. Et donc c'est le documentaire qui a été le premier travail filmique qui a été fait sur cette pièce, montre les conversations justement entre Chéreau et Grégory. Et on voyait quand même très clairement ce rapport de domination. Et je crois que très simplement, ce rapport de domination, qui était... Grégory était très bon, hein, mais je crois que tout le monde était fasciné par Chéreau à l'époque, quoi. Chéreau dans ce rôle-là, dans cette pièce-là, dans cette version-là, était absolument remarquable de finesse, de subtilité. Il épousait dans son jeu, dans son corps, dans sa gestuelle. Je me souviens de cette gestuelle particulière de l'avant-bras, de la main, etc., qui n'était pas du tout une explicitation, une redondance, mais il explicitait justement la sinuosité, la perversion de l'approche d'un personnage par un autre. Hein, c'était tout à fait convaincant et fascinant en même temps. Hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, à la fois la logique et la séduction. Mais il y avait quand même donc ce rapport de domination. Et ce rapport de domination faisait, je crois, que dans cette mise en scène, je n'arrive pas en tout cas à la regarder autrement aujourd'hui, à la fois dans mon souvenir et dans les captations dans la captation que je revois de temps en temps, je n'arrive pas à la regarder autrement que en termes d'interprétation du texte et donc de la domination d'un personnage cette fois sur un autre, c'est-à-dire de la domination du dealer sur le client. Et là, on entre vraiment dans la dramaturgie et dans l'interprétation psychologique même de la dramaturgie. Et ça, ça ne m'allait pas, parce qu'il me semblait, tout en ne sachant pas encore aujourd'hui s'il parle ou non la même langue, mais en tout cas, il me semblait que, pour le dire un peu grossièrement, s'il y en avait un des deux qui dominait l'autre, c'était finalement plutôt le client, et je crois que tu dis à peu près ça d'ailleurs dans ton article, c'était quand même plutôt le client que le dealer qui dominer l'autre dans le rapport de force. Alors, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas. Je suis certain même que ce n'est pas exactement cela, qu'on ne peut pas dire véritablement qu'un personnage en domine un autre dans cette pièce, que le client finit par avoir la supériorité ou peut-être là dès le départ, etc., sur le dealer. Je pense que ça ne se pose pas véritablement dans ces termes-là de toute façon. Ce n'est pas ça qui est important. Par contre, qu'on ait pu avoir cette sensation que le dealer domine le client... parce que c'était Chéreau, parce que dans Dealer, il y a Heure et c'est celui qui fait l'action et que l'autre est plutôt dans la demande, parce que c'est le dealer qui parle en premier, parce que c'est le dealer qui, dans le langage et dans l'action que suppose ce langage, si vous marchez dehors, c'est lui qui va capter l'autre et qui va interrompre l'autre sur son parcours. Ces sensations, ces multiples sensations qui sont des sensations d'appel, ne sont pas finalement des sensations suffisamment convaincantes, même groupées, pour... avoir cette interprétation, le dealer dans l'ensemble de la pièce domine le client. Voilà, donc si vous voulez, le travail implicite que j'essayais de faire aux comédiens, en leur disant jouez des blocs de langage et échangez-vous, donnez-vous, envoyez-vous, dédicacez-vous, dédiez-vous des blocs de poésie, Bloc ici Bachu, on connaissait Mallarmé. Si vous voulez, cette indication, cette intention de metteur en scène n'était pas première, elle était seconde, en fait. Elle venait de ce que j'avais l'impression qu'il fallait remettre les choses à plat, qu'il fallait pas commencer par la psychologie, qu'il fallait pas que l'un domine l'autre, et qu'il fallait jouer le texte. Jouer le texte et rien que le texte et voir ce qui allait se passer. Et ce qui s'est passé, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce retour, ce rattrapage à un moment donné hein, de la psychologie en un lieu qui était celui du langage. Alors c'est peut-être là qu'il faudrait parler d'éthique. Et puis je terminerai peut-être la partie purement conférentielle là-dessus. Juste un mot peut-être sur le dispositif... le dispositif scénographique que j'avais adopté, non pas pour, encore une fois, réveiller des fantômes endormis depuis 13 ans. Les matériaux qui ont servi à la scénographie du spectacle sont devenus le plancher de l'appartement du peintre qui les avait construits. Donc tout ça est... marche dessus toutes les nuits quand il va se coucher, c'est remballé. Il y a, peut-être ça revit hein, dans ses souvenirs à lui, mais parce qu'il me semble que ça, par rapport au travail que vous faites vous, que ça peut être intéressant aussi en termes interprétatifs justement. Le peintre avec qui j'avais travaillé, qui s'appelle Jamel Tata, qui est un peintre algérien, qui est représenté par la galerie Kamel Mennour dans le 6e arrondissement, qui a son propre travail de peintre, avait construit 20 panneaux. Alors selon la grandeur des scènes, on en utilisait la grandeur des plateaux dans lesquels on était amené à jouer, on en a utilisé 8 ou 12 pour les plateaux les plus petits, jusqu'à 20 pour les plateaux les plus grands. Il avait construit 20 panneaux de 2 mètres sur 1, ou de 2 mètres sur 80, oui c'était plus petit, 2 mètres sur 80 cm probablement. Donc des panneaux qu'on disposait, qui tenaient verticalement, hein, 2 mètres de haut et 80 cm de large, qu'on disposait verticalement sur le plateau, de manière à constituer ce qu'on pouvait appeler en termes concrets une forêt de panneaux. Donc certains étaient disposés face publique, d'autres de quart, d'autres de presque de profil, mais il y avait une sorte, ça créait une sorte de labyrinthe un petit peu dans lequel les personnages pouvaient les acteurs pouvaient circuler. Jamel avait utilisé une technique que les fresquistes de la Renaissance utilisaient beaucoup, qui est l'utilisation d'un matériau très particulier qui s'appelle, vous connaissez peut-être si vous pratiquez la peinture, si vous avez des amis peintres, etc., qui s'appelle parce que c'est de la colle de peau de lapin. Et l'avantage d'utiliser cette colle particulière sur laquelle ensuite vous peignez plusieurs couches de peinture, la dernière étant le fameux gris. Donc tous les panneaux avaient une apparence grise au départ. Hein, le gris que Paul Klee, dans ses écrits sur l'art, appelle la couleur neutre. C'est-à-dire la couleur neutre, c'est ce qui signifie aussi, on est chez Barthes et Blanchot aussi, c'est la couleur qui contient toutes les couleurs entre elles, hein, mais qui les neutralise. Alors ce qu'on avait fait précisément, c'est qu'il y avait eu un gros travail. Et c'était finalement, parce que je vous ai raconté la plus belle partie de l'histoire du travail avec les acteurs, mais après ça avait foiré tout ça, et le spectacle n'était pas extraordinaire. Parce qu'à partir du moment où vous avez eu peur, ça ne marchait plus du tout, c'est pas exactement ça. Mais... Ce qui marchait très très bien, c'est le travail qui avait eu lieu justement entre le scénographe et l'éclairagiste. C'est-à-dire que l'éclairagiste avait réussi à déneutraliser le gris, qui était dans les panneaux, et sans mettre du tout des gélatines. Vous savez, ces gélatines qu'on met sur les projecteurs qui peuvent donner des couleurs aux comédiens, aux objets, etc., qui sont sur le plateau, en envoyant de la pure lumière, mais évidemment des types de lumière, en tout cas pas colorées, hein, en envoyant de la pure lumière sur les tableaux, selon le type de lumière, ce qu'on appelle la source de lumière, hein, et selon l'intensité de cette lumière, les panneaux changeaient de couleur. Et donc on pouvait voir du rose, du bleu, etc., sur le même panneau réapparaître progressivement et donner donc un autre fond, puisque les comédiens, alors c'était pas l'effet Comédie Française, hein, ils venaient pas forcément s'installer devant le panneau pour dire leur texte, ça arrivait bien sûr, mais c'était pas toujours le cas. Mais quand un comédien passait devant un panneau, devant le même panneau, il pouvait avoir un fond différent et prendre du coup lui-même la lumière de manière différente. Alors si je vous en parle, c'est parce que y a quelque chose qui me semble fondamental aussi, dont on ne peut pas ne pas parler quand on travaille cette pièce, c'est quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup dans la littérature en général et qui fait que j'ai travaillé des auteurs comme Barthes et Blanchot, dont tu parlais tout à l'heure, Catherine. C'est ce qu'Artaud, par exemple, je relisais Artaud avec des étudiants ce matin, c'est ce qu'Artaud appelle l'équivalence, quel est le terme qu'il utilise exactement, prodigieuse, vertigineuse, je ne sais plus, dans le théâtre et son double, hein, l'équivalence de l'abstrait et du concret. Alors, le côté abstrait, c'est évidemment le côté très langagier de cette pièce, le fait que Coltès l'a rattaché à des dialogues philosophiques du XVIIe. Je vous recommande, c'est pas un renvoi d'ascenseur, je vous recommande particulièrement l'article de Catherine dans le numéro qui paraîtra justement au mois de février, parce que, enfin, je sais pas, été jusqu'au bout de l'explication tout à l'heure, j'ai demandé à plusieurs amis, même spécialistes du XVIIIe siècle, ce que tu as été, ce que tu es encore, d'aborder cette question, de cette référence. Hein. Coltès disait, bon, c'est, je ne sais plus quelle est la phrase exacte, mais enfin, apparenter cette écriture à un dialogue philosophique du XVIIIe siècle. Moi, ça fait des années que je demande à des XVIIIémistes de me dire, et alors, ça marche pour vous, ça? Qu'est-ce qui, dans le dialogue philosophique du XVIIIe, transparaît chez Coltès? Est-ce que c'est une vague référence? Est-ce que c'est nourri véritablement? Comment? Si c'est nourri, comment? Par une intuition géniale de cette forme d'écriture dialogique au XVIIIe siècle, par des références plus précises, comme tu as pu le montrer justement, au neveu de Rameau ou à des dialogues de Diderot. Enfin voilà. Donc, je suis content qu'avec l'article de Catherine, il y ait au moins quelques aperçus qui arrivent sur cette référence, parce que j'ai jamais vu traiter encore, hein, à propos de Coltès, cette référence au. Qu'est-ce que ça veut dire véritablement quand il voulait dire dialogue philosophique du XVIIIe? Bon, alors tout ça, c'est le côté abstrait, hein, et on voit bien qu'il y a quelque chose de, je le vois bien presque tous les jours, enfin je ne travaille pas tous les jours avec cette pièce, mais à chaque fois que je donne cette pièce à des étudiants en théâtre justement, ou même dans des ateliers de théâtre, par rapport à d'autres pièces de Coltès, c'est celle qui apparaît immédiatement la plus abstraite, longueur des phrases, type de vocabulaire employé, jusqu'à parfois peut-être même j'oserais pas dire la pédanterie, mais l'effet de vernis un petit peu, c'est-à-dire de dire illicite au lieu de interdit, par exemple, dans la définition du deal, mais aussi dans les échanges de répliques ensuite entre le dealer et le client. Hein, il y a parfois quelque chose d'un peu superfétatoire, de recherche d'un mot plus clinquant qu'un autre, qui d'ailleurs n'est pas forcément à mettre du côté du choix poétique de Coltès. C'est un choix dramaturgique, c'est faire parler les personnages comme ça. Hein. Voilà, donc il y a toute cette dimension abstraite, et puis il y a toute cette dimension concrète aussi, parce que c'est un deal, alors de quoi ça nous ramène vers l'abstrait, mais on est la phrase, à mon avis, se situe constamment sur une espèce de crête, hein, entre le versant abstrait et le versant concret, et parfois, avec ces métaphores un peu plus naïves, comme on disait tout à l'heure, va aborder le versant concret, mais c'est tenu par un fil, quoi, ça remonte aussitôt sur la crête, pour replonger dans presque dans le concept, hein, à certains moments. En tout cas, dans le don possible à une concept, dans le don à une conceptualisation possible de l'énoncé. Voilà. Donc cette espèce de je vais pas dire de limite, cette espèce plutôt justement de partage, hein, de partage d'une référentialité concrète et d'une structure abstraite de la langue. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait spécifique dans l'écriture de Coltès à la solitude. J'ai quand même, puisque je vous avais dit que je le ferais, je vais quand même vous lire un petit passage de Key West, qui est donc la pièce juste avant, écrite juste avant dans la solitude des champs de coton par Coltès. C'est le début, pratiquement. C'est la deuxième et la troisième scène. Vous avez dans la deuxième scène un personnage qui... Donc ça se déroule sur un quai abandonné, en gare désaffecté. Le ferry ne passe même plus depuis quelques jours. Le hangar est squatté par six personnages d'origines diverses, évidemment tous pauvres, émigrés, lumpen prolétariat. Et vous avez deux personnages de la haute qui arrivent, dont l'un qui a commis l'irréparable dans la société qu'il dirige, qui a détourné de l'argent, etc., dont l'un arrive pour se suicider parce qu'il a précisément été repéré. Donc il arrive et il s'adresse. Il s'appelle Coche ou Cor ou Coq, je ne sais pas bien comment le prononcer. J'ai entendu déjà prononcer de toutes ces manières, K-O-C-H. Et il s'adresse à Charles, qui est donc l'un de ces personnages qui habite le hangar désaffecté. Et c'est sa première réplique dans la pièce, et sa première réplique à ce personnage. Voudriez-vous, s'il vous plaît, m'aider à traverser ce hangar et me mener au bord du fleuve, là où l'on a une bonne vue sur le nouveau port, là où l'on prend le ferry? Je suis bien trop maladroit pour me risquer à traverser seul. Et m'aider à trouver de pierres à mettre dans mes poches? Je promets que c'est tout ce que je demanderai. Ne m'en veuillez pas de mon indiscrétion, je vous en prie. Je ferai le moins de bruit possible. Croyez surtout que je suis innocent de tout ce que vous pourriez imaginer, de tout ce que tout homme imaginerait forcément. Avoir un homme ici, dans cet état et à cette heure, et avec un but que personne ne peut deviner. Je sais bien qu'on pense alors à 10 000 choses, 10 000 raisons dont aucune n'est la bonne. Je vous demande de croire cela. Il y a quelque chose dans la musicalité, déjà. Faudra la regarder précisément, poétiquement, syntaxiquement, mais dans le dépli des raisons du langage. Hein. Dans tout d'un coup, après ce dépli des raisons du langage, cette espèce de clausule qui vient très rapidement clore la possibilité même d'un débat rationnel sur ce qui vient d'être avancé. Et jusque dans les mots eux-mêmes, puisque ce que l'un dit à l'autre, dans une sorte de... La scène, c'est deux pages qui en valent 3,5, on va dire, dans la solitude, hein, parce que c'est imprimé sur des pages plus grandes et en plus petit. Et c'est un soliloque, c'est-à-dire un monologue adressé par Koch à Charles, comme la première réplique du dealer est un soliloque adressé par le dealer au client. Hein. Jusqu'à donc certains passages, comme « Dans cet état et à cette heure », qui ne peut pas ne pas faire penser à cette heure et en ce lieu, qui est dès la première phrase de... Vous rappelez du début, si vous marchez dehors à cette heure et en ce lieu, c'est que vous cherchez quelque chose que vous n'avez pas, et cette chose, moi, je peux vous la fournir. Vous cherchez quelque chose que vous n'avez pas. Il y a un but qui est présupposé par le dealer chez l'autre. Et c'est ce qui revient ici. Voir un homme ici, dans cet état et à cette heure, et avec un but que personne ne peut deviner. Vous voyez ? Donc c'est le même rapport à l'autre qui se pose entre Koch et Charles, de manière plus indistincte peut-être, parce qu'on ne sait pas ici qui demande quoi, qui serait le dealer, qui serait le client. Koch est riche. Ce qu'il va proposer à Charles, simplement, c'est de l'aider à mourir, c'est de l'aider à se suicider. C'est ce qu'il dit dès le départ. Hein. Je promets que c'est tout ce que je demanderai. Qu'est-ce qu'il demande ? Je suis bien trop maladroit pour me risquer à traverser seul et m'aider à trouver deux pierres à mettre dans mes poches. Aidez-moi à trouver deux pierres à mettre dans mes poches. Bon. Troisième scène, la scène donc juste... La scène qui suit, Charles répond à Koch. C'est exactement la même durée, deux pages de cette édition, donc encore une fois plutôt 3,5 pages de La Solitude. Hein. La scène entière dure le temps de ces deux pages, donc même structure, soliloque adressé, soliloque réadressé, hein, de l'un à l'autre. Charles, à Koch donc, les autres vous attendent là-bas, c'est le début, hein. Les autres vous attendent là-bas de l'autre côté, comme des cons, comme si vous alliez venir par le fleuve, dans une vedette de la police en pleine lumière. Mais moi je savais que vous viendriez par derrière, dans l'obscurité de derrière, le long des murs, comme les salauds. C'est l'arrivée du... C'est le dealer surprenant le client, hein, sortant d'une obscurité, ou plutôt... allant d'une lumière à une autre lumière, je cite un peu vaguement de mémoire, hein, le client dans sa première réplique qui explique qu'il est allé d'une lumière à une autre lumière, c'est-à-dire d'une lumière d'un immeuble à la lumière d'un autre immeuble, en passant par ce no man's land de l'obscurité. C'est aussi la phrase que tu cites dans ton article, hein, l'obscurité de laquelle surgit le dealer, l'obscurité qui est attribuée au dealer aussi, hein, dans la pièce, et qui est attribuée au dealer par le client. Moi, je savais que vous viendriez par derrière. Donc, même chose, il y en a un qui attend l'autre. Et cette réplique n'a aucun sens dramaturgique dans la pièce. Charles ne peut pas savoir qu'il y a un type riche qui vient là tout d'un coup, un soir, pour se suicider. Hein. Ça n'a pas de sens dramatique. Ça a peut-être un sens dramaturgique, ça n'a pas un sens dramatique, ça n'a pas de sens par rapport à l'action. Par contre, ça a un sens intéressant dans les présupposés que peuvent se faire les personnages de ce qui peut arriver dans leur propre lieu, qui est devenu leur propre lieu, ce lieu impropre, en garde désaffectée, qui est devenu le lieu qu'ils squattent. Je reprends là. Mais moi, je savais que vous viendriez par derrière, dans l'obscurité de derrière, le long des murs, comme les salauds. J'étais sûr de cela parce que j'aurais fait pareil à votre place. Ça, c'est très intéressant aussi sur l'identité possible entre les deux personnages, ou en tout cas l'identité de la langue, ou en tout cas l'identité du partage des mêmes questions. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à trouver ici quelqu'un d'aussi malin que vous. Et pourtant, vous auriez tort de croire qu'ici, tout le monde est aussi con. C'est pourquoi, croyez-moi, vous ne tirerez rien de nous, pas une erreur, pas une illégalité, rien. L'illégalité, on retrouve l'illicite de la solitude. Hein. Et cette structure, c'est pourquoi, croyez-moi, vous ne tirerez rien de nous, pas une erreur, pas une illégalité, rien. Cette espèce, de, encore une fois, je disais tout à l'heure, de clausule de la phrase, ce rythme un peu long déployé au début, qui retombe de manière assez lyrique, pas une erreur, pas une égalité, une toute petite anaphore, hein, pas une erreur, pas une égalité, avec un déploiement possible, pas une erreur, deux syllabes, pas une illégalité, quatre, rien, qui fait retomber tout de suite la phrase, avec cette espèce d'espoir tourné vers l'autre, je peux déployer ma langue, pas une erreur, pas une illégalité, rien, qui vient mettre le dernier mot à la possibilité de l'échange, et pourtant, ça redémarre. C'est pourquoi, croyez-moi, vous ne tirerez rien de nous, pas une erreur, pas une égalité, rien. Pas de moi, en tous les cas, c'est pour moi que je parle. Donc, toute autre possibilité reste, enfin, toute autre issue peut advenir encore. On sait, tu l'as redit aussi, mais j'ai relu un peu tous les textes là, puisqu'on les a envoyés ce week-end à l'éditeur. Donc j'ai relu le tien, j'ai relu quelques autres aussi. Je ne sais plus à quelle référence tu voulais de ton texte, mais peu importe. Je crois qu'il y avait un autre passage qui était assez saisissant aussi dans le rapport entre les deux. Bon, je ne retrouve pas tout de suite là, forcément. Voilà. Bon, si vous voulez, si je reprends ce passage-là, c'est parce que dans cette équivalence dont parle aussi Artaud, que j'évoquais tout à l'heure, entre l'abstrait et le concret, on a, je dirais presque ici, je le dis de façon un petit peu rapide, hein, on aurait la version concrète de cette équivalence, là où dans la solitude, on a plutôt la version abstraite. Là, ça tire plus vers la situation concrète. On l'entend même dans la familiarité du langage, con, salaud, etc., qu'on retrouve dans d'autres pièces de Coltès, particulièrement dans celle qui se rapprocherait peut-être le plus de la solitude, qui est La nuit juste avant les forêts, où le langage est plus immédiatement presque vulgaire, en tout cas populaire, où ce genre de mot peut advenir, hein, alors que dans la solitude, on est dans un vocabulaire en général beaucoup plus respectable, entre guillemets. La parole se construit autrement. Alors, pour en finir, donc, cette dimension éthique, je crois précisément que s'il y a une dimension, si j'ai commis cette phrase de un des plus grands dialogues éthiques de notre temps, marrant que tu aies trouvé ça, parce que c'est pas le genre de phrase, un des plus grands de notre temps, ça ne veut rien dire, hein, en même temps, mais en tout cas, ça souligne que c'est une prise particulièrement intéressante, quoi, dans le texte de Coltès. Ah oui, je sais ce que je voulais dire juste avant. C'est le, et ce dont tu parles aussi, c'est le rapport avec Beckett, où il y a cette espèce de défiance de Coltès à l'égard de Beckett, où il y a cette manière de dire qu'il ne comprend pas grand-chose, etc., mais où en même temps, je ne sais plus exactement comment il le dit dans un entretien, mais c'est quand même un auteur qui lit. Et il dit qu'il ne va pas au théâtre, ce qui n'est pas complètement vrai non plus, parce qu'il y va aussi. Il y allait beaucoup, je crois, plus jeune, et puis peut-être moins après, allant plus au cinéma. Tu me contrediras peut-être, mais... en tout cas, on voit dans les lettres, par exemple, qu'il y a quelque chose du monde du théâtre qu'il ne supporte pas. Quand il accompagne Gignoux, par exemple, directeur du Théâtre National de Strasbourg, dans certaines tournées, etc. Moi, je crois assez fondamentalement qu'il a quelque chose de beckettien chez Coltès. Évidemment, Les classifications dans l'histoire du théâtre français ont tout fait pour les opposer. Beckett serait le dernier du théâtre de l'absurde, du nouveau théâtre. Et puis, dans son œuvre elle-même, il est allé jusqu'à l'épuisement de toute parole possible. Plus Godot, ça semble encore finalement d'une dramaturgie incroyablement classique par rapport aux petites pièces finales qui sont du pur langage sur trois phrases, voire sur trois pages ou parfois même sur une seule. Hein. On a une espèce de d'essoufflement de la théâtralité et même de la poésie théâtrale possible. Et évidemment, avec Coltès, on reviendrait, c'est en tout cas ce qu'on trouve souvent dans les anthologies théâtre du XXe siècle, on reviendrait à une écriture plus narrative qui raconte des histoires. Coltès lui-même a dit au début des années 80 combien il tenait à raconter des histoires. Alors déjà, c'est une version un peu faussée parce que les pièces des années 70 ne racontent pas des histoires ou racontent des histoires tout à fait autrement, avec des points de vue, avec des dispositifs expérimentaux, on pourrait presque dire, très, très différents de ce qu'il va écrire dans les années 80. Et puis peut-être s'en rapprochant un peu petit à petit. Mais là où il me semble qu'il y a quelque chose de beckettien, c'est dans le sens où on pourrait... Où il faut, à mon sens, hein, comprendre que chez Beckett, même dans l'exténuation, même dans l'essoufflement, même dans ce que Deleuze appelait l'épuisement, vous connaissez peut-être ce petit texte que Deleuze a écrit qui s'appelle L'épuisé, et qui est la postface des pièces pour la télévision écrites par Deleuze. Donc ce que Deleuze appelle l'épuisement de tous les possibles. Même dans cet épuisement, il y a quelque chose du dénouement sans résolution de Coltès, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais l'arrêt final. Un exemple tout simple, c'est un texte que j'aime énormément, un tout petit texte de Beckett qui s'appelle Le Dépeupleur, qui est une sorte de récit en même temps de récits très descriptifs, puisque Beckett nous fait imaginer un cylindre surbaissé dans lequel un certain nombre de corps, dit-il, alors il dit 200, mais en fait à un autre moment il se contredit, hein, un peu plus que 200, enfin bon, à peu près 200 corps évoluent, hein. Il classe ces corps en quatre catégories, c'est toujours très géométrique comme chez Beckett, il y a ceux qui montent aux échelles, ceux qui se cachent dans des niches, ceux qui continuent à évoluer, etc. Et puis la température comme la couleur du cylindre change constamment par des effets sinusoïdaux, hein, selon un rythme sinusoïdal, en quelques secondes, 15-30 secondes, il fait chaud, il fait froid, la lumière, on passe de la lumière à l'obscurité, etc. Donc c'est évidemment une sorte de monde fictif et presque impossible quoi qu'il décrit, mais dans lequel en l'espace d'une trentaine de très courtes pages, le mouvement infernal qui existe au début, je dis infernal aussi parce que ça a pu faire penser à l'enfer de Dante, hein, ce mouvement infernal se ramifie, s'étiole, et à la fin, sur les 200 corps qui bougeaient au début, vous n'en avez plus qu'un. C'est une femme qui se dirige d'un côté du cylindre vers l'autre côté opposé du cylindre, et dont Beckett dit qu'elle marche vers le nord, sans qu'on sache où est le nord, s'il y a un est, un soleil qui se lève, qui se couche, etc. Bon. Et je pense que c'est très... Enfin, je le vois comme une version un peu allégorique de ce qui se passe toujours chez Beckett. C'est-à-dire que même sur la fin, il y a encore du mouvement. C'est-à-dire qu'aucun monde ou aucune hypothèse n'est totalement et définitivement fermée. Et ça, je pense qu'il y a ça chez Coltès aussi, de façon peut-être beaucoup plus forte encore. Peut-être aussi tout simplement parce que, évidemment, chez Coltès, on est quand même, je ne veux pas niveler les oppositions, hein, on est quand même, évidemment, dans une dramaturgie beaucoup plus en acte, malgré tout, avec des personnages. Voilà. Mais, avec une pièce comme Dans la solitude des champs de coton, on est plutôt, dans cette équivalence de l'abstrait et du concret, on est plutôt sur le... On penche quand même un petit peu plus sur le versant abstrait de cette équivalence. Et ça, je crois que c'est pas pour dire que ce serait la pièce la plus éthique de toutes les pièces de Coltès, mais que ce serait peut-être celle qui met en évidence le mieux la dimension éthique qui est présente dans toutes les pièces de Coltès. celle qu'il mettrait le mieux en évidence, ça veut dire que parce que justement c'est elle qui se formule le plus en termes abstraits précisément, hein, qui utilise le plus du début à la fin ou presque à la fin cette possibilité de la langue d'aller jusqu'au bout des hypothèses que permet de lever l'abstraction. Cette pièce est celle dans laquelle le face-à-face entre deux personnages immédiatement compris comme deux langues, comme deux discours qui s'opposent, qui s'affrontent, front à front, hein, à la différence d'autres pièces où vous avez soit dans La nuit juste avant les forêts un seul personnage, soit dans toutes les autres plus de deux personnages, 4 dans Combat de Nègres et de Chiens, 8 dans Key West, une vingtaine dans Zuko, etc. Donc, ça serait, et c'est là que j'évoquais un petit peu cette condition transcendantale, hein, c'est-à-dire celle dans laquelle le dispositif dialogique, deux personnes face à face du début à la fin, permet de mettre en évidence ce qui seraient les lois de l'échange pour Coltès, c'est-à-dire précisément cette dimension éthique. Hein. Et ce qui me touche beaucoup, peut-être parce que justement venant de Blanchot ou de ce type de littérature pour arriver vers Coltès, venant de Blanchot, c'est-à-dire aussi de l'un des deux ou trois amis les plus chers à Blanchot dans son existence, qui est le philosophe Emmanuel Lévinas, qui a développé toute sa philosophie justement en opposition à celle de Heidegger sur la notion d'une éthique, hein, en opposant, pour aller vite, sa notion de l'autre à la notion d'être de Heidegger. C'est précisément, me semble-t-il, ce que Lévinas appelle la courbure de l'espace, que là aussi tu as repris également dans ton texte. Hein. C'est cette fameuse courbure de l'espace qui est l'objet d'un grand dialogue entre Blanchot et Lévinas. Ce sont les 100 premières pages de l'entretien infini de Blanchot qui en parle beaucoup. C'est-à-dire, pour le faire vite, ce fait que même face à face, vous êtes toujours dans un rapport courbe, vous n'êtes jamais dans un rapport direct, et que ce que Lévinas appelle précisément le visage de l'autre, c'est-à-dire le support même le support même qui devrait rendre possible ou interdire, rendre possible un acte éthique ou interdire un acte de violence, hein, ce rapport n'est pas aussi évident ou aussi frontal ou aussi affronté que l'on veut souvent bien le croire. Et précisément, ce qui montre dans la pièce cette courbure de l'espace, c'est ce langage presque infini que les deux personnages s'envoient l'un à l'autre. Encore une fois, la question devrait être réglée en 1 minute 30. Et elle dure 1h30. Donc, si elle ne l'est pas, c'est précisément parce que chaque personnage, dans son propre langage, avec sa propre langue, va tenter d'épouser et d'épuiser toutes les possibilités du rapport à l'autre, jusqu'au moment où peut-être quelque chose de ce rapport à l'autre ne sera pas possible, alors quelle arme ? Mais ça reste une supposition, là aussi. Pour en finir d'ailleurs avec cette question de la supposition, hein, toute la pièce commence par un. Toute la pièce repose, me semble-t-il, je le disais tout à l'heure, sur ce si inaugural, si vous marchez dehors, qu'on peut comprendre à la fois comme une entrée dans l'histoire. Effectivement, un personnage, elle, un autre personnage, qu'il voit marcher dehors. Et il lui dit, vous marchez dehors. Alors, si vous marchez dehors, c'est que, moi, en tout cas, comme dealer, j'en ai besoin de cette hypothèse, je vais vous vendre quelque chose que vous cherchez. Mais en même temps, c'est le levier de toute possibilité de ce théâtre-là. Parce qu'on pourrait interpréter aussi ce début de manière, je dirais, exodiégétique, et en se disant, mais si l'autre ne marche pas dehors, alors qu'est-ce qui se passe ? Si l'autre ne marche pas dehors, c'est qu'il ne marche dehors que dans l'esprit du dealer. Et donc le dealer engage un dialogue immédiatement et jusqu'au bout, fictif, avec l'autre. Et nous n'avons plus affaire, en quelque sorte, qu'à deux fictions de personnages plutôt qu'à deux personnages de fiction. Donc c'est peut-être une pièce qu'on peut lire à double échelle, c'est-à-dire qui à la fois nous raconte quelque chose, et dans lesquelles toutes les théories, jusqu'à la fameuse théorie lacanienne du « il n'y a pas de rapport sexuel », toutes les théories dissymétriques, en tout cas du rapport à l'autre, peuvent intervenir pour l'expliquer, pour en expliquer la diégèse. En gros, tout ce que j'évoquais depuis le début, ces échanges nourris au départ, très rapides à la fin, cette équivalence de l'abstrait, du concret, etc. Hein. Mais, me semble-t-il aussi, et c'est pour ça que moi, dans ma lecture de Coltès, j'en fais un petit peu comme la condition transcendantale de toutes les autres pièces, c'est-à-dire comme si cette pièce était écrivée comme une sorte d'art poétique de l'ensemble des pièces de Coltès, qu'elle disait tout ce qui peut s'échanger dans le rapport à l'autre. Alors, je ne veux pas en faire une lecture totalitaire ou totalisante de l'œuvre de Coltès, mais il me semble que ça marche pour beaucoup de rapports entre les personnages, quand même, entre Koch et Charles, parce que là, on a en plus un langage qui est très proche. Mais vous savez que dans les pièces de Coltès, vous avez très souvent, en fait, des situations de deux à deux. Même dans les pièces, par exemple, Combat de nègre et de chien, c'est une pièce à quatre personnages, ils ne sont pratiquement tout le temps qu'en face à face. Toujours deux personnages. Presque toujours deux personnages en face à face, qui ne sont jamais les mêmes, évidemment. Tous les personnages interviennent les uns après les autres. Hein. Et je crois qu'il y a assez systématiquement cette recherche de la situation du face-à-face, de la situation, comme on le dit architecturalement, de l'affrontement, front à front, comme des dispositifs ou des motifs, plutôt des motifs, mis l'un en face de l'autre. Et cette pièce, donc, je la lis un petit peu comme ça, comme une sorte d'architectonique des rapports, hein, entre les personnages de Coltès qu'on peut trouver aussi dans d'autres pièces, donc peut-être, dans une certaine mesure, comme une allégorie de l'écriture coltésienne. Voilà, c'était un petit peu plus long même que prévu peut-être. Hein, mais...
Peut-être quelques questions personnelles et puis je vous cède volontiers la parole. Hein. Peut-être je voulais revenir sur ce que tu disais au début sur la question du théâtre, puisque au fond... Coltès dit, il me semble que c'est dans une part de ma vie, que c'est une pièce qu'il a écrite, enfin que c'est plutôt un texte qu'il a écrit, et c'est là qu'il parle de dialogue philosophique, mais pas nécessairement pour être joué dans son esprit, du moins ça semblait ne pas l'être, même si ensuite il l'a laissé jouer, donc il y a une espèce de contradiction là-dedans. Et au début, tu as évoqué l'idée d'une dramaturgie par pièce, et est-ce que tu pourrais revenir sur ce que ce serait cette dramaturgie en l'occurrence, de celle-ci, là.
Ah, de celle-ci ?
Oui.
Bah, je crois que...
Parce que quand tu dis ça, tu pars de l'idée qu'au fond, elle est quand même écrite pour être jouée.
Oui.
Oui.
Bah, oui. Tu en penses, elle a été écrite pour être jouée ?
Donc, quand il
l'a
écrite,
non.
Non.
Il savait bien que Chéreau était là. Et...
Pour nous, c'est une question. Enfin, quand on pose la question de cette pièce par rapport au théâtre, au fond, c'est une des premières questions qu'on pourrait se poser.
Non, non, mais je veux dire une toute petite chose. C'est que tu disais tout à l'heure que la solitude était écrite pendant les répétitions de Key West. Pas tout à fait quand même, parce que la solitude a servi, avant Key West, à faire la distribution de la pièce. Donc on a fait jouer le rôle du dealer à Isaac de Brancolé, et c'est comme ça qu'il est entré dans Key West. C'est-à-dire dans Key West, il n'y avait pas de texte, mais on voulait voir comment il jouait. Donc elle était terminée quand même, avant les répétitions. C'est pas très grave. Je pense qu'effectivement, quand il a écrit la pièce, c'était plus une sorte d'amusement, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un amusement, mais c'était quand même un amusement par rapport aux autres pièces. C'est une pièce où il a jamais pleuré durant l'écriture. C'est le cas pour toutes les autres pièces. Donc il y a quand même quelque chose de particulier à cette pièce, une espèce de plaisir de la langue, le plaisir de casser la grammaire, À tel point que c'est pas François Regnault, mais c'était Madeleine Copparo à qui posait aussi des questions sur la grammaire et qui lui répondait au bout d'un moment, mais va faire changer la grammaire à l'Académie française, parce que ça n'a pas de sens la manière dont tu fais ça. Mais quand même, il y a ce côté de déstructuration non seulement de la dramaturgie, mais aussi de la langue, je trouve, moi. Parce que même si c'est une langue qui paraît être celle du 18e, elle est quand même cassée, non ? Enfin, voilà comment je vois ça, elle est cassée. Ça me fait penser à un peu ce que faisait Pasolini avec le néo-réalisme italien, ce qu'il a fait dans son premier film, c'est-à-dire prendre le néo-réalisme et le casser pour faire une nouvelle chose. Alors, je ne sais pas s'il a fait une nouvelle chose avec La Solitude, mais en tous les cas, c'est pas un texte qui est purement du langage du 18e, quand même.
Non.
On en est quand même assez loin, même s'il y a des choses qui nous le rappellent. Et en revanche, là où ça se rapproche de pour moi, hein, du 18e, ça serait plus que le langage philosophique, parce qu'on a parlé de Diderot, etc. Mais je crois que lui s'est jeté dans ce truc-là quand Claude Strass en a parlé, quand différentes personnes ont parlé de ça. Mais je ne pense pas qu'il
avait ça en tête au départ.
Je ne pense pas. Il a lu après le Neveu de Rameau, etc. Il a lu des choses après. Mais en tout cas, Marivaux, je pense que oui. Je pense que là, il a été très influencé par Marivaux. Et si tu veux, c'est un peu comme ce que disait Barthes au sujet du langage. C'était cette chose qu'on retrouve aussi dans Marivaux, qui est le langage qui est une... La langue de l'un vient frotter la langue de l'autre, en fait. Donc c'est quelque chose qui est pas un rapport direct, mais qui est quand même qui l'est, puisque ça peut aller, pour Barthes en tout cas, c'est ce qu'il dit, jusqu'à une représentation de l'acte sexuel, en fait. Alors, évidemment, je pense que Chéreau s'est jeté sur la chose, hein. mais c'est peut-être ça qu'il a cherché dans ce texte, c'est ce rapport du langage qu'il y a dans les autres pièces. Mais c'est vrai que là, c'est exemplaire dans La Solitude. C'est le langage de l'un qui vient se frotter à celui de l'autre, ce qui ne veut pas dire que c'est la même langue, quand même, pour moi. Je ne suis pas sûr que c'est tout à fait la même langue.
Entre les deux ?
Ouais. Bon, voilà.
Je rebondis juste là-dessus, sur le plaisir, parce qu'il dit à plusieurs reprises, enfin moi j'ai essayé de travailler autour de ça, même mes étudiants me regardaient avec un air incrédule, il dit à plusieurs reprises que c'est drôle. Et en réalité, de temps en temps, alors eux ils croient pas, mais moi je trouvais que c'était drôle. Alors il y a des comparaisons et des métaphores qui allaient à l'évidence. Ils travaillent aussi là-dessus, dont tu as dit qu'elles étaient naïves. Je pense à l'abeille, au museau de la vache aussi qui vient se poser sur la barrière, etc. Et puis de temps en temps, à des vacheries qui s'envoient, enfin, qui sont assez terribles. Et on se demande comment on peut recevoir ça. Et peut-être ça le faisait rire à Coltès. J'ai pensé que c'était vrai quand il disait que c'était drôle. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais pour lui, ça l'amusait.
Je pense que, enfin, moi, je n'étais pas là quand il écrivait.
Je ne peux pas parler à sa place, évidemment, mais je pense que oui, parce que pendant toute la période d'écriture de cette pièce, il était très heureux, ce qui n'était jamais le cas pour aucune des autres pièces. Donc il y avait quand même quelque chose qui l'éclatait, au moins, quoi. Et puis alors, il y aurait peut-être... je ne vais pas parler pendant une heure, mais il y a des choses qui me rappellent quand même, dans ce texte en particulier, à la fois le cinéma d'Antonioni, par exemple, celui d'un autre type que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Hellman, qui avait fait ce film tout de suite après Easy Rider, et un film qui n'a pas marché du tout, et que moi je préfère beaucoup à Easy Rider, c'est Macadam à deux voix. Et je trouve que là, on retrouve... d'abord des personnages de Coltès, mais aussi la sensation qu'on a en lisant ou en entendant dans La Solitude des champs de coton. Cette espèce de choses, de personnages qui font des monologues, en fait, qui n'ont pas un vrai rapport. Quoique dans La Solitude, quand même, il y a une chose qui est essentielle, c'est quand même le désir qui s'exprime. On ne sait pas lequel, mais il y a quand même... Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même le thème de la chose, c'est le désir. On ne sait pas le désir de quoi, mais il y a quand même la recherche de l'autre, malgré tout. Même si ça reste, enfin, j'ai l'impression, des monologues jusqu'au moment où, comme tu le disais, ça devient très rapide. Voilà. Mais moi, je pense que le cinéma Antonioni, moi, je parle d'Elman, mais je ne suis pas sûr que mon frère connaissait. Mais en tous les cas, Antonioni, je trouve qu'il y a vraiment des choses qui correspondent. Comme par exemple, le Désert Rouge ou l'autre film, j'ai oublié le titre. Enfin bon, il y a deux films comme ça où j'ai l'impression. L'éclipse, où on est aussi avec des gens comme ça qui se parlent sans vraiment s'écouter, en fait. Et c'est pour ça que dans la solitude, parfois, on a l'impression que la réponse d'un personnage, si on peut appeler ça des personnages, vient beaucoup plus tard que la question. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que tout à coup, il se rappelle qu'il faut répondre à ça, parce que dans le fond, ça ne l'intéressait pas vraiment, parce qu'il était dans le fil de ce qu'il pensait. Et ça, je pense qu'on l'a déjà dans La Nuit juste avant les forêts, même s'il n'y a qu'un personnage, et que la grosse différence, c'est que quand même dans La Nuit, il y a une vraie histoire, puisque même s'il est seul, il raconte son histoire, donc il y a un fil quand même. Il y a ces redondances, ces choses où on revient tout le temps comme des cercles, des boucles. Et là, on l'a avec deux personnages, je pense. Voilà.
Ouais, t'as certainement entièrement raison de souligner l'importance du cinéma aussi, hein, d'un certain type de cinéma, justement, qu'il pouvait voir dans les années 70 ou juste avant l'écriture de la pièce. Et je parlais tout à l'heure du fait qu'on n'avait pas vraiment eu de 18e encore qui s'était attaqué à cette question, qu'est-ce qui est de l'ordre du dialogue philosophique du 18e dans cette pièce, mais le rapport au cinéma, il reste assez peu étudié aussi. On le voit on le voit dans les lettres aussi, hein, le nombre de films qu'il va voir.
C'est pourquoi la musique est capitale. C'est sûr que quand on élude des mots, quand on raccourcit des mots, quand on coupe, par exemple, je me souviens d'un comédien qui répétait La Nuit juste avant les forêts, et dans La Nuit, même si c'est un langage qui est vrai, qui est plus populaire que celui dans La solitude des champs de coton, il y a des mots comme, au lieu de dire par exemple je n'aime pas ça, il dit je n'aime pas cela, et c'est systématique, il dit jamais ça, il dit toujours cela. Et il y a un grand comédien français qui est adorable et qui est génial, qui disait aux jeunes comédiens, mais arrête de dire cela, c'est ridicule. Or ça n'est pas ridicule, parce que c'est des points comme dans la musique, quoi. C'est des points forts comme dans la musique qui reviennent, et on sait pourquoi. En tous les cas, ils n'ont pas été écrits n'importe comment. Et la musique, là, est très présente dans La Nuit juste avant les forêts, ça c'est clair. C'est écrit, c'est lui-même qui le disait, comme une fugue de Bach. Mais ces choses-là, comme les réponses parfois tardives dans La Nuit, dans La solitude, Les réponses qui arrivent tardivement, on pourrait imaginer dans la musique que c'est un instrument qui, tout à coup, même si c'est le même personnage, mais c'est un instrument qui rentre qui dans le...
Et qui répond.
Comme le hautbois pourrait répondre à, je ne sais pas, à la flûte, et ensuite le cor au hautbois, enfin, etc. Bon, j'arrête là, parce que...
Non, super, merci.
Vous avez peut-être des questions
en main. Marche ce micro. Oui, non, alors les Cagneux, je vais vous expliquer, les Cagneux sont très impressionnés, très intimidés, certainement avec le transcendantal, vous les avez vraiment assommés, parce qu'on va devoir revoir nos cours de philo, on va devoir relire Kant en plus pour lire. Et puis alors, quand vous mettez de l'exodiégétique, alors là, ils sont complètement et en même temps, ce que vous avez dit est passionnant. Je pense qu'ils vont relire leurs notes, ils vont trouver ça génial, donc merci quand même. Vraiment, alors, merci. Pardon, vous n'avez pas applaudi, vous pouvez vous appeler, en tout cas. C'est un peu plus tard.
Merci de chauffer la salle avant une question qui va être perverse, je crois.
Je chauffe la salle et je voulais vous rendre un petit service, c'était de vous donner la référence qui vous avait échappé. C'est page 58 de l'histoire de la vie.
Hein. Une panne.
Et je ne suis pas sûr d'être derrière ce que vous disiez tout à l'heure. Je serais plutôt la vie qu'affiche plutôt ce passage drôle. c'est en effet une réplique du dealer à la fin de la pièce. Est-ce qu'on loue l'accessoire ou le costume ? L'habit d'un homme, c'est mieux que lui-même ce qu'il a de plus sacré. Hein ? C'est en effet le dealer qui parle. Lui-même qui ne souffre pas, le point d'équilibre où la justice balance l'injustice. Je ne suis pas du tout comédien, ça s'entend, je lis très mal ce texte. Et il ne faut pas malmener ce point-là. C'est pourquoi il faut juger un homme à son habit, non à son visage, etc. Moi, j'ai l'impression que ce texte est très amusant. C'est le lieu commun qui est déjoué. On est dans les paradoxes et les sentences. L'habit ne fait pas le moine. Ben si, c'est l'habit, puisque l'habit, on le choisit, alors que sa peau, son corps, etc., on ne choisit pas. Donc, on est dans les dernières provocations du texte, les sentences paradoxales qui se balancent avant le combat. Moi, je lis comme ça cette réplique. Et de temps en temps, je trouve ce texte très drôle. Enfin, c'était peut-être pas votre mise en scène de montrer l'aspect amusant, de provoquant, paradoxal, polémique de ces choses-là, jeter un peu l'emporte-pièce.
Non, mais je crois qu'on est qu'on est d'accord au fond. Je crois que les deux interprétations sont tenables, parce que l'humour, c'est de tendre ça précisément au lecteur. Et j'en ai certainement pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais il y a quelque chose que je... Mais peut-être justement pour ça, il y a quelque chose que je n'arrive pas à expliquer avec des mots comme transcendantal ou exodigétique, qui serait justement cet humour. Moi, il me touche fondamentalement, cet humour. Et justement, chez Rowe, c'était la troisième mise en scène, c'était fascinant, mais pas drôle. Je me souviens avoir commis une autre phrase, enfin un autre bout dans Généalogie, dans le premier livre. C'est, je finis un développement en disant l'humour est E-T-E-S-T, l'humour est la langue. Et ça reste une intuition pour moi, mais je crois que. Alors justement, j'ai cité un article dans le volume qui va paraître là au mois de février, le volume de textuel de la revue textuelle sur la pièce qui est à votre programme, l'article de Chloé Larmé sur la structure hypothétique de la pièce. Enfin, sur. Elle commence là-dessus. Elle prend vraiment au sérieux toutes les questions d'hypothèse. Et c'est. Je lui disais, je la connais un peu, mais tu dois être redoutable au jeu d'échecs parce que tu penses l'hypothèse 10 coups à l'avance, quoi. C'est. Donc, elle prend vraiment toute cette architecture des hypothèses, des renvois des hypothèses dans les hypothèses. C'est tordu, hein, l'écriture de ces répliques. Très, très au sérieux. Elle établit très clairement comment les choses se passent. Et puis, à un moment donné, elle. Enfin, je la cite peut-être un peu mal, mais je viens de lire l'article comme ça, mais je crois qu'en gros, son idée, c'est de dire que finalement, dans ce renvoi d'hypothèse à hypothèse comme ça, permanente, c'est quelque chose qui n'arrive pas à se dire, qui n'arrive pas à tenir au sérieux jusqu'au bout. Et précisément, c'est là que ça doit être drôle. Quand François dit, ça me conforte un peu dans cette hypothèse, que tu dis qu'il se sentait bien à ce moment-là, qu'il était heureux à cette période-là, que cette pièce ne lui a pas coûté les souffrances que peut-être d'autres pièces lui ont coûté pour l'écrire. Le plaisir dont tu parlais, quoi, ce plaisir de la langue, ce plaisir de faire se frotter, c'est ça que tu disais, je crois, de faire se frotter de langage. Je crois qu'on peut très bien imaginer une sorte d'auteur démiurge, hein, à ce moment-là, jouant avec ses personnages, jouant avec les langages de ses personnages et les frottant justement comme ça l'un à l'autre. Tu disais, il y a quelque chose du rapport sexuel. Moi, je pensais au dépeupleur de tout à l'heure. Quelque chose de très drôle à un moment donné dans le dépeupleur, c'est que sur les 200 corps là qui sont dans le cylindre, Beckett, avec ses métaphores parfois drôles et scabreuses précisément, dit parce qu'il décrit les corps comme étant tellement vieux et usés qu'ils sont comme des parchemins. Il dit précisément quand ils se frottent pour accomplir la copulation, je crois qu'il en parle en termes de copulation, ça leur fait tellement mal parce que c'est du parchemin contre du parchemin que c'est pas possible. Donc c'est une espèce d'humour scabreux et alors il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi, quoi. Il y a quelque chose qui se frotte et qui est drôle, mais il y a peut-être un côté j'articule mes marionnettes, quoi. Et ce sont ces marionnettes que je fais parler tout le temps dans mon théâtre, par ailleurs. Enfin, je vois les choses un peu comme ça. Et c'est peut-être ça, quand j'essaie d'écrire l'humour et la langue. Hein. Je sais pas si c'est l'humour et la langue, du coup. C'est peut-être l'humour, c'est cette manière d'utiliser, la langue de chaque personnage, de... Voilà. Et ce que Chloé Larmé donc dit dans son article, c'est qu'à un moment donné, le sérieux de ces hypothèses et de ces contre-hypothèses ne tient plus. Il y a quelque chose qui... Et c'est là que pointe l'humour. Voilà, c'est en gros ce qu'elle essaie de démontrer. Je ne peux pas le dire aussi précisément, c'est dans le texte, je l'ai là sous les yeux, mais j'en ai pris connaissance il y a quelques jours. Mais je pense que c'est un article assez intéressant. Parce que justement, il part de l'intradiégétique, de l'intérieur du récit, qui est constitué sur ces hypothèses, ce récit de mise en rapport des deux personnages, pour justement faire affleurer comment l'humour va nous être vraiment... envoyé, comme si finalement on sortait de l'envoi d'une réplique à l'autre pour vraiment la situation de l'adresse théâtrale, de l'envoi, c'est l'humour plutôt qui est envoyé au spectateur. Mais merci de François et vous de rappeler un petit peu plus cette notion d'humour qui est fondamentale jusque dans son sérieux même. Moi j'ai toujours beaucoup aimé le petit texte de Freud, beaucoup plus encore que le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, le petit texte qui s'appelle, je ne sais plus comment, dans une version assez ancienne dans laquelle je l'avais lu, moi étudiant, NRF Essai, il était en annexe, petit texte de 5-10 pages, en annexe du mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient qui en fait 363. Et c'est un petit texte sur... Je ne sais plus comment il s'appelle, sur l'humour, en tout cas, et qui me semble assez bien décrire ce type d'humour utilisé, essayé par Goltès dans la pièce. Je crois que c'est très bien vu, très bien relevé dans le texte, ce moment très singulier où l'humour vient... quoi, attiser autrement le rapport de force entre les deux. Alors après, est-ce que c'est pour faire passer la pilule ou pour accuser renforcer la violence? C'est peut-être pas évident. Mais c'est vrai que c'est une manière, tout d'un coup, autre de toucher l'autre, sans le toucher. Merci beaucoup. Merci.